Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver, de vous réveiller. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche, de 9h à midi, désormais 30 minutes de bonheur en plus. Retenez bien cet horaire, 3 heures de débat, de clash, de bonne humeur avec des grands champions. C'est la 13e saison des Grandes Gueules du Sport et on est évidemment très heureux d'être toujours avec vous. Au sommaire aujourd'hui, l'OM a encore fait forte impression hier soir sur la pelouse de Toulouse. Ce matin, les Marseillais sont leaders de Ligue 1. Peuvent-ils vraiment concurrencer le PSG? C'est la une des GG dans quelques instants. À 10h, le bras de fer. Autour de cette question, les Jeux Paralympiques peuvent-ils devenir l'égal des Jeux Olympiques? Hier, Tony Estanguet a parlé de magie. La magie est similaire entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et puis 11h, il est désormais mais l'ultra favori de l'US Open après les éliminations d'Alcaraz et de Djokovic. Yannick Sinner, un boulevard, lui qui a fait polémique avant le grand chelem new-yorkais. Faut-il souhaiter sa défaite? Tout simplement, ce sera notre question avec vous les GG et vous évidemment au 32-16, sans oublier vos rubriques traditionnelles. La punchline des GG, on parlera de burn-out dans le tennis avec Stefano Tsitsipas, avec Caroline Garcia. Le zapping, on s'en fout pas, beaucoup d'informations à vous donner évidemment, mais là je ne peux rien vous dire, le débat caché. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente tout de suite. Une grande gueule qui, comme Yannick Sinner, il adorait se faire masser avec du spray. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Salut à tous, salut JC.
Ça va Jérôme?
Écoute, en grande forme.
En forme pour une nouvelle saison des grandes gueules du sport?
Je suis très en forme, j'étais là la semaine dernière, tu vois, mais t'étais pas là, donc il y a manqué de saveur. Mais je suis très 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 en forme.
Merci, on va moi j'étais là, mais
c'est beaucoup. Pour ça que ça manquait de saveur.
Moi aussi,
Pascal
aussi, merci beaucoup Jérôme.
J'ai pas à moi le fameux bisounours, ça fait peur.
Attendez, mais Il n'y a pas de vacances? C'est-à-dire que vous n'étiez pas en vacances, les copains?
Jamais, nous.
Mais attendez, qui fait le planning des grandes gueules du sport? Qui vous
on
a prévu
pas.
La
on
semaine dernière?
On ne sait pas.
C'est peut-être moi, mais c'est possible. Allez, je vous les présente aussi, les autres grandes gueules du sport. Une grande gueule qui, comme Yannick Sinner, il a encore jamais gagné à New York. Fred Veil, salut Fred.
Salut, salut, salut.
Mais moi aussi, ça ne passait pas très bien à New York. Hein.
Ben, en fait, c'est passé moyennement. Ouais,
ça a été rapide.
Alors réellement, j'aurais pu me présenter et signer un contrat. Hein. C'est moi qui ne suis pas allé. Hein.
Oui, voilà.
Mais New York me fait peur. C'est une grande ville. C'est moi, j'aime bien les petites villes comme Limoges.
Bah, je préfère être plus grand que les immeubles.
Exactement.
Bah, tu sais, Sinner, quand il arrive à New York, il a flippé aussi un petit peu, tu vois.
Oui, mais ça va mieux.
Mais ça va mieux. On en parlera à partir de 11h. Et puis une grande gueule qui, comme Yannick Sinner, heureusement qu'il s'en fout de sa réputation. Pascal Duprat, salut Pascal.
Bonjour Jean-Christophe. Les vacances, ça s'est bien passé?
Écoute, ça s'est très bien passé. Tu veux que je te raconte en détail? À mon avis, ça n'intéresse que nous. Hein. Mais, écoute, très bonnes vacances. Je dirais pas hyper reposante. Tu sais ce que c'est, les enfants.
Oui,
voilà,
oui,
quand t'as des
oui,
petits enfants
oui,
en bas âge,
oui,
parfois,
oui.
Voilà, c'est un peu.
Des petits enfants.
Enfin,
bon, pendant que tu étais en vacances, on a essayé d'assurer, nous, donc avec Jérôme et le bisounours, Fred Bice.
Ouais, on a été pas mal.
Oui, c'est mon nouveau surnom, apparemment, c'est moi le bisounours, mais tu vas entendre Pascal, c'est lui le vrai bisounours.
Ouais. Parce que vous étiez, il faut bien le dire à nos auditeurs, tous les trois déjà dimanche dernier, c'est ça?
Exactement.
C'est ça. Exactement.
Et vous n'étiez pas d'accord, rassurez-moi.
On n'était pas d'accord du tout.
Les vacances n'ont rien changé. On n'est jamais d'accord.
Ah, vous m'avez. J'ai cru que vous vous aimez bien et tout. Enfin, à un moment donné, ça m'a fait peur. Mais tant mieux, les copains.
Non, on continue de se détester,
parfait.
Évidemment.
Alors, pour vous, les auditeurs, un magnifique cadeau, comme ça, paf, dès la rentrée. Le coffre RMC se prolonge d'une semaine. Et cette fois, nous allons doubler la somme de départ avec 1000 euros cash. Le dilemme est très simple. Soit vous gagnez 1000 euros. Ou alors, vous décidez d'ouvrir le coffre RMC. Et là, vous pouvez remporter la totale de la rentrée. Un MacBook Air, un iPhone 15, une Apple Watch et une PlayStation 5. Dès que vous entendez, ceci, c'est la rentrée. Ouais, oui, on pense à tous nos enfants, voilà, qui demain reprendront le chemin des cours. Bravo aux parents qui ont résisté pendant 2 mois.
On offre des écrans aux enfants qui rentrent au collège alors que la ministre interdit les écrans au collège. On est en phase là.
Exactement.
Bah, évidemment.
Coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Pas tout de suite. Hein. Dès que vous entendez la petite cloche, évidemment, ce sera dans cette émission. Un petit point sur les Jeux Paralympiques avec l'un de nos envoyés spéciaux. C'est Julien Richard. Salut Julien.
Salut les grandes gueules du sport et bon retour.
Salut Julien.
Salut.
Merci beaucoup mon cher Julien. Alors hier ça a été une journée exceptionnelle pour nos Bleus. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui?
Alors, il y a pas mal de choses. L'info de la nuit, vous le savez, c'est qu'il va falloir patienter malheureusement pour voir la grande chance de titre des Bleus sur le paratriathlon. C'est Alexis Anquincan. Les épreuves sont reportées au moins à demain en raison de la qualité de l'eau de la Seine. Vous allez y revenir, mais il y a plein de belles choses. D'autres chances de médaille d'or, notamment la jeune pépite du cyclisme sur piste, Heidi Gauguin, 19 ans, favorite de la poursuite, sera à 15h14. À 50 ans, Yvelines, retour aussi du champion paralympique, Alexandre Léauté. Cette fois, c'est par équipe avec Gatien Le Rousseau, Kevin Le Cunf, finale à 15h37. La piste, cette fois, n'est pas en bois, elle est en tartan. Au Stade de France, le para-athlétisme et le guépard blanc, Timothée Adolphe et son guide Jeffrey Lamy sur 400 mètres non-voyant, la finale c'est 21h05. Lucas Mazur, qui est tenant du titre en badminton paralympique, est en demi-finale, donc il pourrait déjà s'assurer l'argent ou moins ou l'or à 16h40. Et puis après les orages de la nuit et de ces dernières heures, les médailles, on l'espère, sur le plan d'eau de Vers-sur-Marne en aviron. Il y a beaucoup de monde sur le plan d'eau. Nathalie Benoît en ski, Laurent Cadeau, Guylaine Marchand en 2-2 couple mix, un multimédaillé en para-biathlon, Benjamin Davier, qui est sur un bateau cette fois associé à Perlebouge en 2 de couple mixte, le 4 barré mixte également. L'aviron, c'est entre 11h et 12h30. Et puis, les eaux pourraient être un peu plus calmes à la Paris La Défense Arena aujourd'hui. Emeline Pierre a surveillé tout de même sur 100 mètres à nage libre.
Et on reparlera des Jeux Paralympiques. Merci beaucoup, Julien Richard. Si vous voulez écouter ces magnifiques commentaires, c'est sur la radio digitale 100% bleu de 10h à 22h pour ne rien manquer de notre équipe de France qui est 8e ce matin au classement des médailles. 17 médailles pour la délégation tricolore.
RMC, radio officielle des Jeux Paralympiques de Paris 2024.
Justement, ça fait notre enchaînement avec notre premier débat ce matin. Tony Estanguet a dit un jour, pour réussir, il ne faut pas faire comme ses concurrents.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Tout simplement Greenwood qui n'était pas très loin, qui récupère le ballon. La frappe et le but. Oh, quel but. Oh, quel geste technique de la part de Greenwood sur la première intention. Attention, vous voyez qu'il la récupère, la canonnade, Luis Enrique, la frappe de Greenwood. Pour les Toulousains.
Du football. Oui mon gars, du football, voilà ce qui s'y passe sur ton herbe.
Luis Enrique, la frappe de Raymond. Oh, quel geste. Oh, quel geste de la part de Luis Enrique. Mais qui quand même au passage a été touché.
Elle est touchée par la main de Creswell.
Et donc elle a été remise dans le but par Creswell.
Donc ça va être en but contre son camp.
Normalement oui.
Babika va très vite, Babika à la sortie de Rouli. Babika va marquer. Babika a marqué sur la sortie en chaussettes de Rouli. Le gardien marseillais.
Coup de sifflet final de la part de Stéphanie Frappard. Les Toulousains ont réussi à sauver l'honneur.
Gros match de l'Olympique de Marseille, grosse domination.
On joue au foot là. Là, il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas de fric sur le terrain.
Alors cela peut paraître anecdotique, mais c'est devenu assez rare pour le souligner. Ce matin, l'OM est leader provisoire de la Ligue 1 après sa démonstration hier face à Toulouse. Une nouvelle victoire à l'extérieur, pleine de panache, marquée par le doublé, le nouveau doublé, vous l'avez entendu, de Mason Greenwood. Dès son arrivée cet été, Roberto De Zerbi avait annoncé la couleur. C'était dans le journal L'Équipe. Bien sûr que l'on veut rivaliser avec Paris, sinon tu ne viens pas à l'OM. Fin de citation. La musique qui fout les jetons. Et cette question. L'OM peut-il vraiment concurrencer le PSG? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
Jérôme Pinault.
Et en tant que supporter de l'OM, j'aurais aimé vous dire oui mais non.
T'as vu, t'as failli dire supporter du PSG. Pascal Duprat.
Clairement oui.
Clairement oui, j'ai deux oui, j'ai un non. Avant de débattre, on va retrouver la voix du foot sur RMC au commentaire hier soir évidemment. Jeannot Rességuier, bonjour Jeannot.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Alors tu as retrouvé les Marseillais Jeannot. Après la rencontre, est-ce qu'ils se prennent déjà à rêver?
Ah, pas encore, mais bon, le premier bilan de la saison est là. Hein. Après 3 matchs et avant la trêve internationale, il est plutôt positif avec 7 points sur 9 de possibles, 2 victoires confortables à Brest et à Toulouse et un match nul au Vélodrome contre Reims, sans oublier que l'OM avait été mené ce jour-là au score avant d'égaliser par son arme fatale venue d'Angleterre. Greenwood, auteur de 5 buts en 3 rencontres. C'est important d'avoir un buteur. Donc presque parfait pour Roberto De Zerbi, cet entraîneur perfectionniste qui aime, dès qu'il le peut, rappeler ses attentes à ses joueurs.
Voglio tutto.
Moi, je veux tout. Je veux le jeu, je veux des buts, je ne veux pas encaisser. Je veux de la mentalité. Même si on gagne 3-0, je veux chercher le quatrième ou le cinquième but. Je veux défendre sur un 3-0 pour ne pas encaisser de but, comme si ce but pouvait changer notre vie. Et je veux réussir à aider l'équipe à redevenir grande. Et pour redevenir grand, il faut le jeu. Il faut les joueurs, il faut de l'organisation dans le club et il faut la mentalité. Et cette mentalité, c'est la chose la plus difficile à atteindre. La véritable mentalité d'une grande équipe, c'est la fin, tous les jours, 24 heures sur 24.
Tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Et le message est clair, et les joueurs adhèrent à ce discours ambitieux tout en prenant du plaisir en match comme au quotidien à l'entraînement. C'est plutôt important, et c'est Amine Harit qui en parle.
On kiffe jouer ensemble, voilà, on prend énormément de plaisir. Beaucoup de jeux combinés, beaucoup de petites passes, voilà. pas pour chambrer l'adversaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour rechercher l'efficacité. Et je trouve que c'est quelque chose de bien et il va falloir encore travailler dessus, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre jeu.
Et quand on examine l'effectif de Marseille dans le détail cette saison, qui sera en plus cette saison blanche sur la scène européenne, alors oui, pourquoi pas, l'OM a quelques arguments à faire valoir.
Merci beaucoup Jeannot Rességuier pour ces précisions. Jeannot, on te laisse tranquillement prendre ton avion parce que Jeannot, vous savez, il a un week-end absolument fantastique.
Ce soir
il sera à Lille, ciao. Pour Lille Paris Saint-Germain. Merci en tout cas pour ces précisions sur l'Olympique de Marseille. L'OM peut-il concurrencer le PSG? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Venez, amis marseillais, nous donner votre avis. J'ai un premier oui, Fred Weiss, pourquoi oui?
Oui, tout simplement parce que l'équipe a été bien construite, parce qu'il y a eu un très bon mercato. Quand on parle de Greenwood, c'est quelqu'un qu'on n'aurait pas espéré. Alors, vous savez très bien ce que je pense de lui comme être humain. Là, on parle du footballeur. C'est un footballeur qui ne devrait pas être à l'OM. C'est un footballeur qui a un niveau bien supérieur à ce qu'il a montré jusque-là et en tous les cas, au potentiel que l'OM a en recrutement normalement. Donc, logiquement, c'est un joueur qui va exploser cette année, qui va montrer plein de choses. Ensuite, il y a Hojbjerg, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est aussi un joueur fantastique et qui est aussi dans un mercato fantastique. Mais est-ce que le meilleur élément de ce mercato, ce ne serait pas De Zerbi? De Zerbi, tout le monde s'est regardé en disant « Mais qu'est-ce qu'il va faire à l'OM? Il n'y a pas de Coupe d'Europe, il ne se passe rien, il est l'entraîneur à la mode, on a envie de le voir coacher parce qu'il est très bon et il arrive à l'OM. » Donc je me dis que cet ensemble de jeunes, d'anciens, de ce groupe qui est encadré par un De Zerbi, qui a le vent en poupe, qui est adoré, en plus, avec le fait de ne pas jouer l'Europe, donc avoir le temps de se préparer, de travailler, on parle de ce groupe qui est jeune et encadré, mais jeune surtout, c'est-à-dire qu'il peut progresser, travailler, avoir le temps de se poser et bien jouer au foot, comme c'est le cas pour l'instant. Honnêtement, moi je me dis que oui, ça peut embêter le PSG, oui, bien sûr.
Ok, tu y crois pour cette saison?
Oui, j'y crois, évidemment.
On vous pose la question, non pas naïvement, mais ces dernières saisons, parfois, durant la saison, on a pu se dire, tiens, ah, s'il revenait un petit peu dans la course, et puis au final, bah, le ballon se dégonflait automatiquement. Sauf que là, vous y croyez. Ok, Jérôme Pinot, pourquoi non?
Non, parce que ça reste Paris en face. Si tu me dis, la question c'est, est-ce qu'ils vont faire un beau dauphin de Paris? Oui. Ils vont être en concurrence avec l'AS Monaco, avec Lille, peut-être avec l'Olympique Lyonnais s'ils retrouvent de la cohésion, mais pas aller chercher Paris, parce que déjà il y a un 2-2 contre Reims, on a commencé à trouver les...
Ça vient de commencer, c'est une équipe jeune, c'est logique que de temps... Oui, mais c'est normal que sur une équipe jeune de temps en temps, c'est un peu dur.
On s'enflamme, ils sont leaders de la Ligue 1. Ce soir, le Paris Saint-Germain va sûrement gagner et revenir à hauteur. Et le deuxième...
Tu vas vite en besogne, Jérôme.
Et le co-leader...
Lille joue bien, attention, justement, ce match est important.
Laisse-moi finir, le co-leader, c'est le FC Nantes. On sait qu'on va pas finir sur le podium, donc... C'est que trois matchs. Sur les trois matchs, il y a deux matchs aboutis contre des équipes un peu fébriles. Hier, contre une équipe qui joue à 10. Un autre match un peu plus sérieux où ça joue 11 contre 11 contre une équipe qui joue, parce que Reims, ça joue, il y a 2-2 au Vélodrome. T'as déjà perdu 2 points. Alors la question, c'est est-ce qu'ils peuvent concurrencer? Non. Après, il va y avoir le 27 octobre prochain, ça joue Paris. On aura déjà un premier aperçu, mais il y aura peut-être déjà beaucoup de retard. 2 points, c'est beaucoup quand tu veux concurrencer un club comme Paris. Et en plus, moi, je suis parti de ceux, et là, Pascal va me tomber dessus, mais tant mieux. Je fais partie de ceux qui pensent que la nouvelle formule de la Ligue des Champions va encore améliorer le jeu au quotidien du Paris Saint-Germain.
Parce qu'il y aura plus de confrontations face à de grands équipes.
Niveau.
Okay.
Donc, je pense pas que l'OM, même si
et justement moi je pense exactement le contraire.
Alors tu vas arriver dans quelques instants. Attends parce que
justement le PSG ne s'épuisera pas. La chance de l'OM, c'est de pas jouer les ligues de pas jouer de Coupe d'Europe, alors que ces deux trois concurrents directs, Pascal, je te confirme que Lille a une très belle équipe, vont jouer les Coupes d'Europe. Jérôme. Donc ils auront peut-être cet avantage là, mais concurrencer le Paris Saint-Germain.
Un mot, Jérôme. Merci.
Mais je suis
Laurent Blanc,
j'ai toujours été un passeur de
Mon argumentaire sur un plateau. Merci Jérôme.
Laurent Blanc, j'ai du pain à moudre, hein. Mais tu peux dire
que tu seras
un moudre si tu veux. Vas-y,
passe. Oui. Et deux, mon capitaine.
Donc, en fait, moi, j'ai répertorié six facteurs qui me laissent à penser que le gouffre abyssal a été réduit lors de ce mercato entre Marseille et le PSG. Le premier, et Fred l'a très bien dit, c'est l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui a un projet de jeu, qui a participer au recrutement, et ça c'est important, donc qui a apparemment obtenu les joueurs qu'il voulait. Fred, tu as aussi ressorti parmi les recrues, bien sûr il y a Greenwood qui a marqué 5 buts, qui est en feu, et qui, quand vous avez un joueur qui est en feu, qui marque des buts, souvent ça se prolonge sur toute une saison, mais ils ont aussi pris des joueurs de grand niveau, comme Pierre-Emile, j'adore son prénom, Hugeberg. C'est ce qu'il manquait au milieu de terrain pour la transition, de mon point de vue, à l'OM. Donc quand j'ai parlé de l'entraîneur, quand j'ai parlé du recrutement, l'impact que l'OM peut avoir sur ses résultats, eh bien c'est le Vélodrome. Donc moi c'est le petit point d'interrogation, est-ce que le Vélodrome, réputé pour sa ferveur, va être patient avec Wai? Parce que contre Reims, Wai a empêché son équipe de gagner, parce qu'il a manqué trois occasions nettes au moins, et il est sorti sous les sifflets. Donc si le Vélodrome est au diapason de son entraîneur, et cède patient, à ce moment-là, Marseille va être imbattable aussi à domicile. Comme point aussi et comme avantage, j'ai noté le PSG et son recrutement sans star, ses jeunes joueurs, et le fait qu'ils jouent la Coupe d'Europe contre des équipes huppées. Ne crois-tu pas qu'ils vont se fatiguer davantage? On verra ça très vite en début... Dans quelques semaines.
Moi, je ne sais pas. Moi, voilà. On m'a toujours expliqué puis, que le PSG n'avait pas le niveau en Champions League parce qu'il jouait la Ligue 1 tous les week-ends. Là, il y aura plus de matchs de très haut niveau.
Le dernier point, c'est qu'il y a davantage de concurrence en Ligue 1, de mon point de vue. Attention à Monaco, attention à Lille, on va voir ce soir. Attention à Rennes, et pourquoi pas Lens qui va se refaire la cerise. Donc, il va y avoir un championnat où les victoires vont être difficiles à obtenir, aussi pour le Paris Saint-Germain. C'est pour cette raison que je dis, pourquoi pas un mano à mano OM-PSG.
Je reviens sur un des points, sur un des nombreux points, puis il y en avait 15, des points de Pascal Dupont.
Il y en a 6. Mais là, il a mis le pain et le grain à bout, donc ça fait 6, ça fait 12.
Sur un des points, c'est le Vélodrome. Juste pour préciser ta pensée, c'est un avantage ou un inconvénient, le Vélodrome?
Ça pourrait être un grand avantage quand l'OM tourne.
Ça pourrait être un inconvénient.
Mais ça peut être un inconvénient.
Premier match, c'est 2-2. Et l'attaquant phare... Il est sorti sous les sifflets. Mais on va avoir besoin de lui. Greenwood, il va pas marcher sur l'eau comme ça toute la saison. Hein.
Pourquoi pas? Tu sais, quand tu commences comme ceci, 5 buts en 3 matchs, pourquoi pas? Bon, hier, il a bien été aidé par la défense, par Rest, et la défense toulousaine, parce que le gardien toulousain, il était aux abonnés absents. Si vous regardez le match, les trois premiers buts, il y est pour pas mal. Mais cela dit, Greenwood, il va dans le sens profond, il a une spontanéité incroyable, c'est un joueur de classe. Et puis, comme l'a dit Fred, bon, voilà, on parle du joueur de foot, et grâce à ses frasques, grâce à ses attitudes hors terrain, il est aujourd'hui à l'OM. Sans ces attitudes-là, il ne serait pas à l'Olympique
justement,
de Marseille.
Justement, on va en parler dans quelques instants de Greenwood, parce que Roberto De Zerbi en a encore parlé hier en conférence de presse. Je vous propose de marquer une petite pause et puis on en reparle dans quelques instants tranquillement avec vous au 32-16 sur cet Olympique de Marseille. L'OM peut-il concurrencer le PSG? En d'autres mots, l'OM peut-il jouer le titre cette saison en Ligue 1? Après ce que vous avez vu, supporters marseillais, après trois rencontres, il y a eu beaucoup de buts, il y a eu deux victoires, il y a eu un match nul. Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h29 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche, désormais de 9h à midi. 9h midi, nous gagnons une demi-heure pour notre plus grand plaisir. Avec ce matin, Pascal Duprat, Fred Weiss et Jérôme Pinault. Restez bien avec nous dans une dizaine de minutes. On s'en fout pas. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, notamment une nouvelle réunion ce matin dans la course au parrainage pour l'élection de la présidence de la LFP. On en parlait déjà hier. Long dossier avec notamment Gervais Martel qui était notre invité. Il avait un coup de gueule à passer. Vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast. On en reparlera dans une dizaine de minutes. Ou encore Thomas Hurtel. Ça, c'est pour faire plaisir à notre ami Fred Bay.
Ah oui, j'adore.
Faut bien lui donner quelques gâteaux à notre ami Fred Bay. Vous avez vu comme il est grand, faut le nourrir.
Thomas Hurtel,
faut lui donner des paquets entiers comme ça, avec le plastique. Thomas Hurtel veut une seconde chance avec les Bleus. Tu nous diras si ça t'intéresse ou si tu veux. Évidemment, nous en parler. Mais restons un instant sur notre premier débat. L'OM peut-il concurrencer le Paris Saint-Germain? L'OM qui s'est imposé 3 buts à 1 hier face à Toulouse. On attend les supporters dans quelques instants qui seront avec nous au 32-16. Ils vont nous donner leur avis. On parlait de Mason Greenwood. Ben justement, je vous propose d'écouter Roberto De Zerbi qui a encore une fois dû répondre à la polémique autour de ce joueur. Hein. On ne rappelle pas évidemment ce qui s'est passé dans sa vie privée.
Mason Greenwood est un joueur de niveau absolu.
Mason Greenwood est un joueur de très haut niveau. Nous l'avons tous voulu, même le propriétaire s'est personnellement impliqué. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup de discussions. Tout le monde voit le joueur sur le terrain, mais je peux aussi parler de la personne. Sans entrer dans sa vie privée, mais avec moi, avec nous, il montre qu'il est un bon gars, une bonne personne.
Un bravo ragazzo, una brava persona.
Est-ce que cette histoire qui a beaucoup fait parler cet été, on en a fait des débats dans les grandes gueules du sport, est-ce que cette histoire autour de Mason Greenwood, ça va coller au basque de l'OM toute la saison? Pour l'instant, ça perturbe rien, évidemment, vous le voyez, hein, 5 buts en 3 matchs, mais est-ce que les questions vont arriver sans cesse sur lui ou pas?
Non, je pense pas, mais par contre, je pense que c'est plutôt bénéfique dans un sens où je pense que Greenwood est un garçon intelligent et qui va essayer de laver plus blanc que blanc. C'est-à-dire qu'il va être irréprochable.
Il va,
oui, exactement. Et s'il veut se racheter un tant soit peu, si tant est qu'on puisse le faire, tout faire pour que ça soit parfait. C'est-à-dire que son coach le dit, il se comporte très bien, il est gentil, il est performant sur le terrain, il va pas se prendre la grosse tête parce qu'il a toute la saison pour prouver des choses. Donc c'est pour ça que moi je mise sur l'OM, parce que je me dis que ce Greenwood-là, c'est une bénédiction pour eux. Encore une fois, on va pas juger l'homme, mais le joueur est une bénédiction parce qu'il va être performant, parce qu'on connaît son niveau et parce qu'il va vouloir être le plus clean possible. Et Greenwood clean, c'est vraiment très très bon.
On se posait forcément la question de savoir si lors de son arrivée, ça allait pas perturber le mercato, si ce volet extra-sportif allait pas jouer sur le sportif. Pour l'instant, c'est non. Est-ce que ça peut durer comme ça?
Jusqu'au moment où il faut pas qu'il dépasse les bornes, quoi. En fait, il faut qu'il reste dans les clous et je pense qu'il le fera pas. S'il a bien compris les choses. Après, on sait comment ça peut vite redérailler. Hein. Quelqu'un peut redevenir le naturel parfois, peut revenir. Et s'il déraille, ça sera une catastrophe dans les deux sens. Pour le coup, ça sera dans l'autre sens. Là, parce que c'est lui qui va casser la petite pyramide qu'il est en train de construire. Derrière,
et tout le monde tombera sur l'OM.
Et tout le monde
tombera sur l'OM en disant pourquoi vous avez fait ce mec-là, vous saviez ses antécédents, etc.
C'est une vraie prise de risque. Et McCourt qui s'est engagé à des choses et qui s'est engagé, De Zerbi le dit dans son interview d'hier, ça veut dire que le mec, il est quand même là, il sait pourquoi il est là et il a le petit point rouge sur la tempe. En disant, mec,
on est rassuré parce que De Zerbi, apparemment, il vit chez Greenwood.
Ils vivent ensemble, oui, tout à fait, dans le jardin. Non, c'est pour ça que tout le monde me dit non, mais ça arrivera pas, on sait pas. Le mec, il est chez lui, le soir après les matchs, il a déjà dégoupillé, il a déjà fait des choses qui sont impardonnables, on sait pas.
Mais il a touché le fond, il sait ce que c'est l'enfer, il sait ce que c'est que d'être banni, il sait ce que c'est que d'être transféré à Rétafé pour aller jouer au foot alors qu'il est dans un grand club.
Il avait un avenir sportif radieux.
Il avait un avenir incroyable, fantastique, et d'un seul coup, peut-être pas en enfer, mais au moins au purgatoire. Donc il faut absolument qu'il soit clean et je pense que soit il retombe dans ses travers et c'est plus fort que lui et c'est mort fini. Et c'est fini pour lui le foot, soit il a une chance encore et c'est sa dernière chance.
Il comprend bien qu'il est sur un terrain parfait pour rebondir puisque le Vélodrome est un stade où quand on brille on est le héros de tout un peuple et Marseille est le deuxième club.
T'es d'accord avec tout Jérôme en fait.
Non, là on parle de Greenwood. Je te parle pas de est-ce que l'OM peut conquérir un Paris Saint-Germain, je te dis que pour Greenwood, Marseille, on va avoir des supporters parfaits. pour rebondir et aller rechercher le club qui doit être celui dans lequel il joue, donc c'est-à-dire un des top clubs européens. S'il a compris ça et qu'en dehors de ça, quand il
rentre, attends, toucher, il n'a pas compris, c'est qu'il est, il a rien à faire.
Tu sais, Fred, il arrive de vacances, c'est con.
Ce qu'on n'a pas compris aussi, c'est que l'OM peut être un top club européen. Il faut aussi se dire ça, c'est que l'OM a déjà été, il y a longtemps, d'accord, mais c'est aussi un grand club européen, parce que c'est un club unique en Europe, l'OM, avec ses supporters, avec sa ferveur à Marseille. Donc il est exactement dans le club qu'il lui faut, et puis tout le monde, là, on attend ses volets.
Il a le profil à parfait pour être la star de l'Olympique de Marseille,
voilà.
En tout cas.
Voilà, ses buts, son attitude sur le terrain, ça c'est important. Et le fait qu'il soit à Marseille, ça va l'obliger à être toujours très très attentif à ce qu'il rend sur le terrain.
Il oublie d'en faire 5 fois plus que les autres, en plus pour laver plus blanc que blanc, comme je disais tout à l'heure. Donc je pense qu'il va le faire et qu'à l'OM va être apprécié et adulé.
Non, mais aussi pour qu'il y arrive, il faut aussi l'équipe. Et je pense que l'OM a l'équipe pour cette saison. Avec un milieu de terrain qui me semble vraiment performant. Harit marche sur l'eau aussi depuis le début de saison. Donc c'est important quand vous avez Hushberg, Harit, Kondogbia au milieu. C'est quand même un milieu qui est capable d'être souverain, y compris à domicile, là où l'OM avait des difficultés à faire le jeu ces dernières saisons.
Mickaël nous appelle au 32-16. Bonjour Mickaël.
Salut à tous.
Bonjour.
Supporter de l'OM, merci d'être avec nous. Mickaël, notre question cache ce matin. L'OM peut-il concurrencer le PSG cette saison en Ligue 1? Tu dis oui ou tu dis non?
Mon cœur, il a envie de dire oui. Après, faut quand même être raisonnable et se dire que moi, je pars que cette saison, on pose les fondations. Parce qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, on joue que le championnat. Donc, il faudrait poser les fondations et le problème, c'est que vu qu'à Marseille, on sait comment ça se passe, et surtout avec Monsieur Longoria, j'espère juste que l'année prochaine, on partira sur les mêmes bases que là. Parce que si on change tout encore dans 9 mois, on n'arrivera encore à rien.
Oui, tu veux la stabilité enfin et tu attends pour voir, quoi.
C'est ça. Et après, là, cette saison, oui, le seul avantage qu'on peut avoir, on va dire, pour concurrencer, et encore, je dirais pas concurrencer, c'est, on va dire, c'est maintenir le plus longtemps possible le suspense dans le championnat.
Voilà. Ok, mais ça, t'y crois. À la rigueur, tenir le plus longtemps possible. Après, ça peut craquer à un moment donné, évidemment, mais ça, t'y crois, en tout cas.
Oui, franchement, oui, ça part très bien. Et on voit même juste dans la mentalité déjà alliée. Et à Marseille, c'est le plus important aussi.
Et moi, j'ai une question par rapport à Wai. Qu'est-ce que tu penses de Wai, justement, qui a été sifflé, sa première...
Je voudrais juste rappeler quelque chose, parce qu'à chaque fois, on fait un peu les vierges effarouchées en disant, et c'est vrai que le pauvre Wai, il arrive 21 ans dans un club comme l'Olympique de Marseille et tout ça, et voilà. Mais rappelez-vous l'année dernière, Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui, mais
parce que nous, on se souvient des 8 derniers mois ou des 9 derniers mois.
Il
est incroyable, faut absolument qu'il reste.
Mais il faut se rappeler du début.
Siffler, il était sur le banc.
Sauf que Wai n'a pas le même âge, n'a pas le même vécu. Et justement, c'est pour ça que je pose la question par rapport à un supporter.
Mickaël.
C'est Marseille. Et oui. On se rappelle à l'époque, JPP, c'était j'en peux plus. Ouais. On l'appelait. Donc Marseille, c'est que voilà, je voulais répondre aussi à ce qu'avait dit Pascal tout à l'heure, c'est que oui, ça peut être une force comme le Vélodrome, comme on va dire un poids pour un attaquant, mais vous verrez que le prochain match, oui, il a été sifflé parce qu'il a fait deux parts son rendement sur le terrain pendant le match, et en plus parce qu'on a fait un match nul par rapport à ça. Mais vous verrez que le prochain match au Vélodrome, quand il va y avoir l'annonce Eli Wai, vous verrez qu'il sera applaudi.
Ok, pas d'enflammade, c'est ce que je comprends de Mickaël, mais tout de même, et là j'interroge les GG, tu pourras nous donner ton avis évidemment. Roberto De Zerbi, je vous ai annoncé sa phrase là en conférence, dans le journal L'Équipe, c'était avant le début de la saison, où il dit bien sûr qu'on veut rivaliser avec le PSG. Il rajoute évidemment, je ne sais pas quand ça arrivera, mais moi c'est ça que je veux faire, je veux rivaliser avec le PSG.
Mais c'est pour ça qu'il est venu, De Zerbi.
Non, mais
quand tu es entraîneur de l'OM,
c'est ce qu'on lui a vendu, bien sûr.
Jacques-Henri Hérault, Franck Macourt, quand ils sont arrivés à chaque fois, c'était nous, on veut rivaliser avec le PSG. Et ça fait
les entraîneurs.
Non mais bien sûr, mais est-ce que là ça fait sourire? Est-ce que quand vous l'avez vu en début de saison,
si tu souris, tu souris parce que t'es supporter du PSG, toi, Jean-Christophe. Et moi, tu devrais pas sourire parce que je te promets que l'OM, elle est pas loin du PSG. Parce que si on s'enflamme donc pour l'OM, alors on s'enflamme pour le PSG. Parce que le PSG a fait quelques matchs de très très bonne facture depuis le début de saison et qu'on les croyait pas capables sous prétexte que Mbappé est parti. Donc attention, PSG est jeune aussi. PSG joue la Coupe d'Europe, nouvelle formule. Attention, attention, parce que l'OM, ça a l'air d'être costaud, tout simplement. Donc l'OM va rivaliser avec le PSG.
Ok, quand tu dis ça, toi Jérôme, toi qui dis attention, faut pas s'enflammer, quand tu dis ça de Roberto De Zerbi, t'achètes, tu dis c'est génial, on a un entraîneur qui en veut, ou tu dis oula,
non, mais moi,
trop d'effet d'annonce, quoi.
Moi, je suis un supporter de l'OM, donc évidemment que j'achète. Mais je suis après, avec le recul et la hauteur qu'on peut avoir, on se dit soyons prudents. Et c'est pour ça que j'ai répondu non à cette question. Pour moi, le PSG est encore largement un ton au-dessus d'un club qui est en perpétuelle reconstruction, comme le dit notre auditeur.
Oui, mais il y a des nouvelles fondations. Encore une fois, il y a deux Herbis qui arrivaient, il y a eu un bon mercato.
T'es supporter de l'OM et t'arrêtes pas de les critiquer.
Mais je critique pas.
Tu vas au Vélodrome, tu te fais couper en rondelle, toi.
Mais je vais y aller.
Mais il y va pas.
Et j'étais en vacances tout près de la commanderie il y a 15 jours.
Il veut te dire que. Il veut pas se porter
deux Herbis, on l'entend. Et pas qu'à 300 mètres autour. Ça envoie sévère. J'étais en vacances tout près. Je peux dire que le mec, il est là. Il n'est pas là pour acheter du terrain, lui. Il est là pour son projet. Maintenant, Pascal, c'est pas à toi que je vais apprendre que si ça fait 2-3 matchs qui vont pas comme il faut dans ce club, ça peut vite partir à volo.
C'est pour ça que j'ai parlé des supporters et de Wahi. Parce que Wahi, à Montpellier, il marchait sur l'eau.
Tous ces éléments-là sont à prendre en compte.
À Lens, il s'est fait siffler, il a pas mis un pied devant l'autre. Donc attention, parce que c'est une recrue phare, Wahi. Ouais, si Wahi vient à performer, attention les enfants.
Mais c'est surprenant qu'après ce qu'il a vécu, qu'il aille à l'OM, alors qu'il savait qu'il y aurait une pression énorme. Ça veut dire qu'il a quand même du caractère, ce garçon.
À l'OM, ça se refuse
après
pas.
Oui, mais ça veut dire qu'il a du caractère, ce garçon. Après avoir dit une forte interview le seul club où je viendrai jamais jouer, c'est
l'OM. Effectivement.
Faut pas qu'il se loupe là. C'est le moment. Élie, si tu nous entends.
Ouais, mais c'est pour ça que moi j'y crois.
Ok, bon, on va clore ce débat évidemment tout au long de la saison. On reparlera de cette Olympique de Marseille et on verra si vos prédictions sont bonnes. 9h40. On revient dans quelques instants pour le On s'en fout, on s'en fout pas. Beaucoup d'informations à vous donner, notamment. J'aimerais évoquer avec vous. Alors, on en a parlé avec Fred hier sur cette élection à la présidence de la LFP. Nous avons d'autres informations à vous donner. Il y a une nouvelle réunion ce matin et j'imagine que ça a fait réagir Pascal Duprat et Jérôme Pinault. 9h40, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h42, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours ce matin avec Pascal Duprat, Fred Weiss, Jérôme Pinault. À partir de 10h, un magnifique reportage à vivre sur les Jeux Paralympiques. Peuvent-ils devenir l'égal des Jeux Olympiques ? Hier, Tony Estanguet a parlé de magie similaire entre les deux événements. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et vous n'êtes pas d'accord, les GG. D'ailleurs, vous pouvez déjà répondre, chers auditeurs, à ce bras de fer sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, plusieurs informations à vous donner. L'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Et je vous rappelle la règle, là, non pas pour les nouveaux venus, mais pour ceux qui débutent cette 13e saison. C'est notre ami Jérôme Pinault, Pascal Duprat. Si vous me dites « je m'en fous », mais que vous voulez intervenir, sachez que votre micro est coupé et que malheureusement, vous avez loupé le coche. Première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est les épreuves de paratriathlon reportées à demain. On l'a appris tôt ce matin. On s'en fout, on s'en fout pas. Fred Weiss.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Ok. Jérôme Pinault.
Non, on s'en fout pas, évidemment.
Alors, en raison d'une dégradation de la qualité de l'eau de la Seine, les épreuves de triathlon des Jeux Paralympiques prévues ce dimanche ont donc été décalées à lundi et mardi. Notre envoyé spécial Arnaud Valadon est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour les GG.
C'est vrai que c'était le scénario Arnaud. Le plus redouté.
Oui, et qui n'était pas forcément prévu, même si un entraînement avait été annulé hier dans la Seine. C'est ce matin, lors d'une réunion à 3h30 du matin, comme lors des Jeux Olympiques, jour de la course, réunion à 3h30 des organisateurs, eh bien, il a été acté d'annuler, en tout cas de reporter les épreuves de triathlon du jour à demain. En cause, tu l'as dit, qualité de l'eau de la Seine. C'est vrai qu'il a plu de façon à se modérer, à intense, sur la région parisienne ces deux dernières 48 heures. Et donc, c'est aussi l'incompréhension, parce qu'il y a un grand ciel bleu aujourd'hui sur la capitale. Beaucoup étaient venus parce que une partie du triathlon est accessible gratuitement, que ce soit la partie course à pied en fauteuil, la partie cyclisme et même la partie nage. Et donc parmi les spectateurs qui étaient venus, beaucoup ont découvert sur le tas la nouvelle de l'annulation.
On voulait venir voir ici sur Paris, on vient de Rouen pour essayer de supporter Alexis en quinquennat. On a un beau ciel bleu, mais hélas, les épreuves peuvent pas avoir lieu aujourd'hui, c'est reporté, c'est peut-être pour une belle médaille d'ici un ou deux jours. C'est un peu une petite surprise, mais on regrette pas non plus d'être venu.
Alors, la douche, elle est pas froide, justement, il n'y a pas d'eau pour les triathlètes ce matin, et donc sans eau, c'est plus un triathlon. Donc je pense qu'ils ont pris la bonne décision pour protéger les athlètes, de ne pas les mettre dans l'eau. Maintenant, après, d'un autre côté, il faut que le report puisse permettre d'avoir une vraie épreuve demain, parce que le triathlon, c'est trois épreuves, et donc là, pour l'instant, on est un peu tous dubitatifs.
Donc report à lundi, sauf que du côté des organisateurs, on craignait déjà cette journée de lundi, de par la météo, on avait déjà déplacé les épreuves en fauteuil et pour les déficients visuels à ce dimanche justement, qui était vraiment la fenêtre de tir espérée. Il reste alors un dernier jour possible de report, le mardi 3, et alors là, si la Seine n'est toujours pas baignable, l'option serait donc un duathlon avec 2,5 km de course, 18,5 de vélo et 5 km de course pour les paratriathlètes.
Et on rappelle Arnaud, que pour les Jeux Olympiques, justement, le comité d'organisation ne voulait pas de ce duathlon. Il voulait absolument disputer un triathlon, mais là, ça pourrait être le cas. Est-ce que vous avez envie de réagir à cette information?
Non, c'est juste dire que s'il n'y avait pas des athlètes en jeu, on pouvait dire que c'est un running gag, un peu la qualité de l'eau de la Seine. On en a parlé pendant tout le temps, on a toujours eu peur, et malheureusement, ça arrive encore une fois. Et si on devait passer sur un biathlon, je ne suis pas sûr que ça plaise vraiment aux athlètes, parce que le triathlon, par définition, c'est trois sports différents qui se complètent, et un duathlon. Je ne sais pas si ça aurait un sens. Donc on est un peu forcément déçus et on espère vraiment que le triathlon pourra avoir lieu.
Bon, merci pour ces informations. En tout cas, Arnaud Valadon, vous pouvez suivre tout ça sur rmcsport.fr et évidemment sur notre radio digitale.
On espère surtout qu'ils vont pouvoir nager, parce qu'Alexis en quinquant, on le rappelle, sa grande force, c'est surtout la nage.
Exactement, et on voulait suivre ça à partir de midi 20. C'était son départ, malheureusement, ça aura lieu demain. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est une nouvelle réunion ce matin dans la course au parrainage pour cette élection de la présidence de la LFP, la Ligue de football professionnel. On s'en fout, on s'en fout pas. Pascal Duprat.
Non, je m'en fous pas. Non.
Jérôme Pinault.
Ah non, je m'en fous pas.
Ouais, ça, je m'en doute. Hein.
Non, je m'en fous pas.
Fred Weiss non plus. Alors après le psychodrame de vendredi, on en parlait évidemment hier. Nouvel épisode dans ce feuilleton à rebondissement. Une réunion de l'Union des acteurs du football va avoir lieu donc ce matin pour enfin, peut-être, délivrer les fameux sésames pour les candidats à l'élection de la présidence de la LFP. Principale interrogation, Cyril Linette et Gervais Martel, qui avaient eu les parrainages de Foot Uni jeudi, vont-ils pouvoir se présenter? Notre spécialiste de ce dossier est avec nous, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Salut Arthur.
Alors, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui?
Eh bien, d'abord, rappelez que vendredi matin, l'Union des acteurs du football a décidé de ne pas donner de parrainage à Cyril Linette. Impossible pour lui d'être candidat à la présidence de la LFP. Alain Guérini a lui obtenu un parrainage. Carl Olive et Vincent Labrune sont finalement les seuls à eux obtenir les deux parrainages nécessaires. De quoi placer l'actuel président sur une voie royale pour sa réélection. Mais la nouvelle est très mal passée auprès des représentants politiques. Plusieurs acteurs du football ont milité pour une intervention directe d'Amélie Oudéa-Castéra, chose faite dans la journée de vendredi par téléphone. Le soir même, on a appris que Cyril Linette allait finalement avoir le parrainage de l'UAF et pourra donc se présenter à la présidence de la LFP le 10 septembre prochain. Une nouvelle réunion, tu l'as dit, de l'Union des acteurs du football est prévue ce matin à 10h30 pour valider tout cela. Cette dernière heure, l'UNFP pousse pour que Gervais Martel ait finalement lui aussi ce deuxième parrainage. Ce qui est sûr, c'est que ce feuilleton est très loin d'être terminé.
Ok, donc on pourrait avoir d'autres parrainages. On attend évidemment l'officialisation de celui de Cyril Linette. Et pourquoi pas Gervais Martel? Pourquoi pas d'autres? Certains disaient, non mais il ne faut pas que cette élection ce soit l'école des fans et que tout le monde ait un parrainage. Mais ça pourrait finalement être le cas. Et pour une démocratie, pour une élection, c'est pas plus mal.
C'est
peut-être
la tendance de ce matin, que c'est tout le monde ait ses parrainages.
Ok, c'est la tendance de ce matin. Évidemment, tu nous tiendras informé minute par minute. Et ce sera le cas sur RMC Sport. Votre regard sur cette situation, Jérôme, là?
Mon regard, à moi, c'est un peu le complément de ce que disait Marc Madiot hier. Il faut rendre un peu les gens qui font partie du sport lecteurs, parce que sinon, c'est un fiasco. Et c'est encore une fois de plus une très mauvaise image que donne le football. Il n'en a pas besoin en ce moment. À la suite de l'épisode des droits télé, je pense que là, à un moment donné, il faut vite comprendre et vite se mettre autour d'une table pour prendre des vraies décisions. Et pour moi, alors, je ne m'en suis pas caché. Donc voilà, Cyril Linette est l'homme de la situation. Maintenant, il faut pouvoir laisser entrer des gens comme Gervais Martel, Cyril Linette et autres, capables de se présenter, d'avoir un vrai programme. Il faut d'abord qu'ils puissent se présenter. Et quand on sait que les gens en place ont quasiment le droit de nommer les gens qui vont se présenter... Enfin, on est dans une république bananière, là. C'est du grand n'importe quoi, en fait. C'est digne d'un mouvement d'antan. et qu'on veut plus voir. Donc si le sport et si tous ces beaux acteurs, la place elle est bonne quand même, ils sont un paquet à vouloir y aller. Si ces beaux acteurs sont là à tous vouloir diriger le football parce qu'ils aiment le football, Pascal, tu me diras si je me trompe, ils nous disent tous d'abord, mais pour le bien du football, bah pour le bien du football, prenez un peu de hauteur et dites, bah là j'ai fait de la merde, faut que je m'en aille quoi. Parce que j'ai pas bien fait les choses, il faut que le football y aille mieux.
Ouais, mais je crois que tu l'as dit en préambule.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Mais la place, elle est bonne. Mais bah, la place, elle est bonne.
Vas-y, Pascal.
En fait, on tire un boulet rouge sur le président actuel de la Ligue professionnelle de football, mais ce sont les statuts de cette même Ligue professionnelle de football qu'ils appliquent avec les parrainages. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas
nouveau. Il a fait évoluer les statuts pour les nouvelles élections quand même.
Mais cela dit, voilà, moi je vais juste dire l'exemplarité de nos dirigeants, est mise à mal. Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'il n'y a pas que les dirigeants du foot qui dirigent bizarrement, non ?
Oui, mais le problème, Pascal, même c'est que le foot est un exemple, est un miroir.
L'État s'en mêle. Non, mais franchement, on se fout de qui, là ? Oh, vous voulez qu'on revienne à quelques semaines auparavant et certaines décisions prises en haut lieu dans l'État ? Bon, il ne faut pas déconner quand même.
Oui, mais l'État,
bien sûr, et Dieu sait s'il ne s'en prive pas. Hein. On ne peut pas dire que l'État en France n'intervient pas. Okay, et quand vous parlez de République bananière, vous avez raison. Et moi, ce qui me gêne, c'est que le foot, d'une part, perd du temps. Il faut qu'il y ait un président de la Ligue professionnelle de football, parce qu'il y a encore des dossiers à défendre. Et on donne encore une fois une mauvaise image. Alors, pour une fois, ce n'est pas les footballeurs, hein. Ce sont les dirigeants, pour une fois.
Bah, pour une fois, je dirais, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand on a su vendredi que finalement, Vincent Labrune, c'était une voie royale pour lui, parce qu'au final, bah, ils allaient donner trois parrainages, Alain Guérini, Carl Olive et lui, et puis que les deux autres n'allaient pas se présenter, donc forcément, ils seraient seuls pour se faire réélire dans un fauteuil. Ça m'a fait penser à Noël Le Graët, une phrase qui était passée assez inaperçue. Vous vous souvenez de cette interview dans Bartoli Time, où évidemment, il a trébuché, chuté sur une question sur Zinedine Zidane, mais quelques minutes auparavant, je lui posais la question de savoir pour la suite, les nouvelles élections et tout ça, et lui il disait, et il s'en cachait pas, non mais pour mon successeur, je sais qui ça doit être, ça y est, tout est ficelé. Et je l'avais relancé en disant, mais il y a des élections normalement, c'est pas à vous de décider qui va vous succéder. Il dit non mais ça je m'en occupe, vous inquiétez pas. Et ça avait, évidemment, après il y a eu Zidane, donc ça a emporté le tout, mais c'est dire si, on va dire, dans la gouvernance, alors peut-être pas que dans le foot, mais...
Pas que dans le foot.
C'est devenu monnaie courante.
Les visages n'ont pas beaucoup changé. Hein.
Oui, exactement.
Mais c'est symptomatique.
C'est-à-dire que bon, on choisit naturellement son successeur. Voilà.
Ou est-ce qu'il ne devrait pas du tout être le cas? Parce que quand tu choisis ton successeur, c'est que tu vas appliquer la même politique, que tu vas faire exactement la même chose. C'est juste une suite logique de ce que tu as fait. Et c'est pas normal. Tu devrais avoir effectivement des vraies élections, choisir le programme qui te convient le mieux et avoir le choix en tous les cas au moins.
Ce qui est d'autant plus surprenant de la part de ce monde-là, des dirigeants du football et des clubs notamment, c'est que la personne en tête, et là tu dis on tire à boulet rouge, Pascal, mais il est président, il l'a voulu, donc évidemment que quand les choses ne vont pas bien, on tire toujours sur la personne qui ressort, c'est celui qui préside.
En fait,
et celui
qu'est-ce qui préside aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas bien, c'est les droits télé qui ont été négociés à la baisse.
Lui,
mais à part ça,
lui a été quand même en avant pour ces choses-là, on a quand même balbutié, les présidents de clubs soutiennent ce garçon, alors que ce garçon-là, avec ses
mais
choix...
Mais ils ont leur raison, c'est ça que j'aimerais que...
Je suis d'accord,
mais si les présidents de club le soutiennent, c'est qu'ils ont leur raison.
Et tu les connais,
c'est qu'ils
les
savent
raisons,
que peut-être qu'ils savent qu'il est le meilleur défenseur des dossiers qui se présentent à la LFP. Je sais pas, je suis pas là. Moi, j'ai rien ni pour ni contre Labrune. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on... Je pense qu'on le stigmatise sous prétexte qu'on a appris que s'il se faisait virer, il avait un parachute doré. C'est encore une fois le fric qui fait que on lui tire dessus. Mais bon, quand il a repris, là, et quand il a été nommé à la présidence de la Ligue professionnelle de football, c'était pas brillant quand même. On sortait d'un marasme avec Mediapro, un marasme incroyable, et le Covid, double peine. Okay, le seul championnat européen qui s'est arrêté en mars.
Mais
non, c'était difficile. Les clubs français étaient en grande difficulté. Non, oui. Mais il a raison de se défendre comme ça. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'on s'est aperçu qu'il gagnait très bien sa vie. Oui, qu'ils avaient concédé.
Tu sais pourquoi on le stigmatise exactement?
Merde.
Parce que ça ressemble à un petit arrangement entre amis. En fait, vu de l'extérieur.
Mais alors, à ce moment-là, je comprends pas. Est-ce que Guérini Anthony et Carl Olive. Moi, c'est ça la question que j'aimerais poser. Qui sont donc parrainés? Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'être président de la Ligue professionnelle de football?
Mais non,
à ce moment-là, Carl Olive, monsieur, il est député, je crois, Carl Olive, hein, mais je l'apprécie beaucoup. Et monsieur Guérini, la même chose. Bah, retirez-vous. Et puis Cyril Linette et un autre.
Se retireront jamais.
Font face. Mais je sais pas, je suis pas dans les instances. Bah, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on stigmatise uniquement parce qu'il gagne du fric. C'est pareil pour Mbappé.
Tirer les ficelles aussi.
Les copains, voilà ce que l'on pouvait dire sur le dossier. Vous avez pu vous exprimer. En tout cas, évidemment, en Suisse, dossier, c'est à partir de 10h, 10h30, c'est ça ?
10h30,
oui. 10h30, ok, tu reviens nous voir, évidemment, si tu as d'autres informations. Allez, troisième information dans le zapping des GG rapidement. Thomas Hurtel veut une seconde chance avec les Bleus. On s'en fout pas, le basketteur Fred Weiss.
On s'en fout pas,
Pascal Duprat.
Moi, je m'en fous pas, mais je peux dire un mot.
Ok, très bien.
Comme le sujet d'avant.
Jérôme Pinault.
Ah non, moi je m'en fous pas. J'ai hâte d'entendre Fred Weiss.
Alors, dans une interview donnée au site spécialisé Euroops, Thomas Hurtel, sans club, a déclaré chercher un nouveau point de chute en Euroleague tout en espérant réintégrer l'équipe de France dans l'optique de l'Euro 2025. Le meneur de 35 ans n'évolue plus, ça il faut le savoir, au Zénith Saint-Pétersbourg après deux saisons en exil qui lui avaient valu d'être radié de l'équipe de France. Alors, quand il revient notamment sur sa non-participation au jeu, voici ce qu'il dit : je ne voulais pas dire que je n'allais pas rester, aller en sélection, puis éventuellement retourner en Russie. Cela aurait engendré une situation encore plus bordélique. Pour les Jeux Olympiques, la préparation a commencé très tôt et je n'avais pas encore pris ma décision à ce moment-là. J'étais un peu triste, mais je n'ai rien regretté. Porter ce maillot et jouer pour son pays, c'est toujours génial. J'espère avoir une deuxième chance car je n'ai rien fait de mal. Honnêtement, moi, dès le départ, j'ai dit à tout le monde que j'allais jouer au Zénith Saint-Pétersbourg. Je n'ai menti à personne et je n'ai rien dit de mal. Tout le monde savait ce que j'allais faire. Fred Weiss.
Je sais pas quoi penser de ce garçon. Thomas Hurtel était un garçon particulier. Il a parlé sur toute son interview. Il commence en disant à Barcelone, c'est pas de ma faute. Je me suis fait virer, mais c'est pas de ma faute. À Madrid, je me suis fait virer, je suis sorti, mais c'est pas de ma faute. Ensuite, en équipe de France, ils m'ont radié et finalement, c'est pas de ma faute. Sauf que t'as signé une charte disant que tu n'allais pas en Russie, t'y vas quand même. Mais tu considères que c'est pas de ta faute. Ensuite, quand t'as une chance de pouvoir revenir, tu fais une interview chez un confrère de Squeak en disant, c'est tous des cons, ils le savaient tous et ils ont tous menti. Mais tu penses qu'en sciant la branche sur laquelle t'es assis, tu vas être sélectionné? Faut arrêter. Je pense que Thomas Hurtel, c'est du passé. C'était un meneur magnifique en équipe de France. Il nous a forcément aidé parce qu'il avait cette capacité à jouer des pick and roll que nous n'avions pas, pour être un peu technique. Mais c'est fini. Merci, Thomas Hurtel. J'espère qu'il trouvera un club en Euroleague parce qu'encore une fois, c'est un très bon joueur. Mais l'équipe de France, non merci.
Ok, bah c'est clair. 10 secondes chacun, s'il vous plaît, les copains. Pascal Duprat.
Ben, moi déjà, je ne comprends pas pourquoi on lui a ôté une première chance. Oui, je comprends, par un règlement stupide. Voilà. Donc il aurait dû être sélectionné en équipe de France pour les avant-derniers JO. Donc. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que tu es joueur professionnel, tu vas signer à Saint-Pétersbourg. Et puis alors, il est là pour gagner sa vie. Hein, qu'il joue en Russie, ou qu'il joue dans le Cézou, qu'il joue au Qatar. Il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup à dire.
On n'est pas en guerre avec tous ces pays que tu cites. On est en guerre avec la Russie, on n'est pas en guerre avec le Qatar.
C'était stupide de la part de la Fédération
française. On n'est pas non plus en guerre avec la Russie.
De basket. On n'est pas en guerre avec la Russie. L'OTAN est en guerre avec la Russie.
Non, on n'est pas, pardonne-moi, mais on n'est pas en guerre avec la Russie.
Enfin, l'Ukraine est
en guerre avec la Russie, mais voilà. pas la
C'est mon avis.
Bon, c'est un point géopolitique et géostratégique qu'on pourrait avoir plus tard dans une autre émission si tu veux. On n'a plus le temps, Jérôme.
Non, mais pas grave. Moi, je
pardonne
pour un joueur qui quitte un club, dit maintenant je reviens en équipe de France. Quand tu vois les résultats, prouve sur le terrain, trouve un club et on verra.
9h58, on se retrouve dans quelques instants, on va vous parler des Jeux Paralympiques. Peuvent-ils devenir légal des Jeux Olympiques? Oui ou non, les GG ne sont pas d'accord, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.